Que la grâce et la paix vous soient données, vraiment, de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Nous nous présentons devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit feuillet qui est au début du psautier liturgique. Réjouissons-nous au Seigneur. Et nous célébrons Dieu en suivant du cœur cette prière de Grégoire de Nyssa. De quel nom pouvons-nous t'invoquer ? Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges ? Quels mots pourront parler de toi ? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes nos aspirations silencieuses. Tu es l'objet des attentes de la création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Et je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 89, donc, que vous trouverez dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 3 du psaume « Je louerai ton amour et ta fidélité ». Psaume 89. Vous pouvez prendre place. Selon le témoignage de l'Évangile, voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, aime-le avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et avec un autre Grégoire aussi de l'Antiquité, Grégoire de Nazianze, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour arriver à vivre cet amour infini qui a été manifesté en Christ. J'ai été bien déçu, ô Dieu de Jésus-Christ, par moi-même. Je suis tombé bien bas, relève-moi. Alors j'ai conscience de m'être trompé moi-même. Si de nouveau je deviens présomptueux, je retomberai aussitôt et ma chute sera fatale. Si tu me reçois, c'est bien, sinon je meurs. Aurais-je, moi seul, lassé ta bonté? Je compte sur toi. Éclaire mon esprit, dissipe toute erreur. En toi, Dieu de Jésus-Christ, j'ai plus confiance qu'en la victoire de mes propres forces. Mais que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement, au plus profond de leur être, la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et c'est Jésus-Christ qui se penche vers nous et nous dit, lève-toi et va. Il nous dit ensuite, ta foi t'a sauvé. Et il nous dit enfin, avance dans la paix. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu. Vous pouvez prendre place. Alors bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte. Vraiment, c'est une force et une joie de se rassembler ainsi, dans ce petit dimanche matin frisquet, pour se serrer les coudes et pour s'ouvrir ensemble au meilleur. Bienvenue tout particulier à Alix, dont les parents ont demandé le baptême. Alors bienvenue aussi à ton frère Jean, qui a été baptisé ici le 25 mai 2013. Et qui est maintenant un grand garçon, vous le reconnaîtrez facilement, il est habillé tout chic avec un pantalon vermillon. Bienvenue à ceux qui ont demandé ton baptême, Alix, afin que tu reçoives ce signe de la grâce de Dieu et que tu sois accueilli dans l'Église de Jésus-Christ. Église avec un E majuscule, c'est-à-dire la large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ, au-delà des chapelles, au-delà des siècles, au-delà des différentes confessions de foi. Bienvenue à tes parents, bienvenue à ton parrain et ta marraine. Alors c'est vrai que, Alix, tu n'as pas choisi d'être baptisé, tu n'as pas choisi non plus d'être dans une famille aimante. Tout cet amour que tu reçois, elle ouvre devant toi une liberté. La grâce de Dieu aussi, puisqu'elle t'est donnée sans condition à toi, Alix. Et elle te permettra de choisir en toute liberté plus tard si tu désires ou non devenir une disciple du Christ et choisir, si tu choisis d'être disciple du Christ, eh bien l'Église dans laquelle tu veux poursuivre ton cheminement. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, c'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta bénédiction et tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ ton Fils et pour la bonne nouvelle qu'il nous a donnée. Bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour et de ta lumière que tu offres gratuitement et sans condition à toute personne. Aujourd'hui, nous te présentons cette charmante, merveilleuse personne qu'est Alix, pour qu'elle soit marquée du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Aide-nous à accompagner Alix sur le chemin de la vie et en particulier celui de la foi. Apprends-nous avec elle à faire jaillir dans ce monde de la chaleur, de la tendresse, plus de justice, de paix et d'espérance. Amen. Ainsi donc, parents, parrains et marraines, Alix sera chez elle dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si jamais elle venait à s'en séparer, sa place resterait toujours marquée, toujours prête pour la recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous essayerez, dans la mesure de vos forces, d'être pour elle un exemple et un appui. Ça met la barre assez haut, je reconnais. Aussi, vous pourrez prier pour elle, vous pourrez l'instruire, la soutenir, l'aimer. Et c'est tout cela qui pourra lui permettre de parvenir un jour elle-même à la foi et qu'elle puisse un jour répondre, si elle le désire, en toute liberté, à la grâce manifestée par son baptême et devenir ainsi un membre de l'Église de Jésus-Christ. Alors je vous propose de vous rassembler ici, parents, parrains, marraines et puis Alix, et s'il le désire aussi, le grand frère qui a un rôle particulier à jouer, bien sûr, dans ce cheminement de vie qu'a Alix. Alix, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Alix, que Dieu te bénisse et t'accompagne sur la route qui sera la tienne. Qu'il t'accompagne jour après jour sur la route, sur ta route, qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Ne crains pas, dit l'Éternel ton Dieu, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu fais partie de ma famille. Alors pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous resterez donc pour elle une présence aimante, libérante, qui lui dise sa dignité infinie, la merveille qu'elle est aux yeux de Dieu. Alors les parents d'Alix et de Jean ont préparé une confession de foi personnelle qui sera donc la confession de foi de notre Église pour ce matin. Alors c'est un peu un échantillon de ce qu'ils veulent transmettre à Alix et Jean. Et donc je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à cette confession de foi.
Je crois en Dieu, le Créateur du monde et de la vie. Je crois qu'il a créé la femme et l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec une âme pure et simple. Dieu leur a aussi donné la liberté pour qu'ils puissent agir et s'accomplir dans le monde. Je crois que Dieu s'est fait chair, qu'il a envoyé son Fils Jésus parmi les hommes pour les guider et conclure avec eux une alliance. Il est mort et ressuscité pour les sauver. Je crois en l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres pour leur donner la volonté et la force d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tous les hommes de tous les pays. Je crois que cette bonne nouvelle permet de transformer le monde, d'ouvrir les hommes les uns aux autres et de leur insuffler la joie de vivre dans l'amour de Dieu. Je crois en l'amour, en la solidarité et en la bienveillance entre les hommes. Malgré mes limites et mes doutes, je pense que Dieu est derrière moi à chaque instant, qu'il m'éclaire et que sa lumière m'aide à cheminer vers lui.
Un grand merci. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place pour entendre ce que, voilà, les parents, c'est la maman je crois qui va nous lire un message pour Alix.
Mon Alix, tu reçois aujourd'hui le sacrement du baptême. Nous avons choisi que tu sois baptisé pour que tu puisses te lancer dans la vie avec des repères d'amour, de confiance et de partage. Nous voulons que Dieu accompagne tes premiers pas et qu'il te guide quand tu grandiras dans ta recherche de spiritualité. Seigneur, accueille notre petite fille dans la famille des chrétiens. Guide-la sur le chemin de la tolérance et de l'amour de son prochain. Aide-la à voir le meilleur en chacun et protège-la dans les épreuves qu'elle traversera.
Un grand merci à tous les quatre, et puis à Alix et Jean, vous êtes formidables. Et voilà, pour prier pour vous, poursuivre dans cette prière, eh bien, je vous propose de chanter le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie ». Alors, je fais souvent la réserve au début de la deuxième strophe, il y a marqué « Soumets leur âme à l'Évangile », alors ça fait un peu peur, comme si leur âme devait être mise dans une sorte de moule à gaufre, craque, pour la formater. C'est pas ça du tout, c'est pour que voilà, leur vie toute entière soit infusée avec de l'amour, ces respects, ces dignités infinies que nous propose l'Évangile du Christ. Merci à vous.
Thank you.
Vous pouvez prendre place. Alors c'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Mais ce n'est pas pour autant qu'on cherche à crucifier les enfants avec des cultes trop longs, interminables. Donc on organise une joyeuse garderie qui est en face, en fait, aux quatre rues de l'Oratoire, où il y a des dames qui s'occupent des enfants avec des montagnes de jouets. Donc si c'était trop long pour eux, bien, quelqu'un peut éventuellement les amener aux quatre rues de l'Oratoire en face donc, de l'église. Alors j'ai choisi pour vous ce matin d'entendre dans l'Évangile selon Luc deux passages. Alors d'abord, je vais vous lire parce que ça fait un peu Noël, si je puis dire. Dans le chapitre 1er de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 26, l'Annonciation. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie répondit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Alors ensuite, dans l'Évangile selon Luc, toujours, je vous propose au chapitre 8, la parabole du semeur. Une grande foule s'assembla autour de Jésus, et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Et il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, Jésus s'écria, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est donné en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. » Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie et ne donne pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et beau, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et alors je vous propose de chanter le psaume, le cantique 87 dans le petit recueil Louange et prière, le cantique de Zacharie, les strophes 1, 2 et 4. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi et que tu veux nous donner en particulier. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce temps, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et un amour vrai qui anime nos cœurs, nos paroles et nos actes. Deux personnages sont évoqués dans cette parabole. Alors il y a bien sûr le sympathique semeur qui sort pour semer, et puis il y a l'homme figuré par le terrain. avant d'ouvrir une espérance pour cet homme avec une fructification merveilleuse, l'évocation qu'en fait Jésus, c'est celle d'un homme désespéré, un homme piétiné par les sans-vergogne, par ceux qui passent en écrasant son visage, en marchant dessus finalement avec leurs grosses chaussures, piétinant sa dignité, envahissant son espace, méprisant son point de vue, sa créativité, ses besoins, ses projets, ses rêves. Le terrain, c'est aussi l'homme étouffé par mille catastrophes, par l'angoisse, par les préoccupations. Le terrain, c'est encore l'homme qui trouve dans sa vie comme un désert de pierre, où donc rien ne pousse par manque de la moindre goutte d'eau. Mais le terrain n'est pas qu'un homme désespéré. C'est aussi la personne géniale que nous pourrions être et celui que nous sommes souvent en réalité, même si notre modestie proverbiale nous empêche de le reconnaître trop souvent et encore plus de le dire. Oui, nous sommes ce terrain qui projette à son tour une multitude de bons grains dans le monde et qui le sauve dans un sens. Oui, Dieu est souvent fier de nous et il nous le dit en plus. La question du point de vue du semeur, c'est comment est-ce que je vais pouvoir aider ce désespéré qui me préoccupe ? C'est si difficile d'aider quelqu'un en vérité. Et puis la question du point de vue du désespéré, c'est comment vivre enfin ? Est-ce que la vie, est-ce que le monde n'a pas mieux à m'offrir ? Est-ce qu'elle peut rayonner ? Est-ce qu'elle peut porter du fruit ? Est-ce que c'est un jour, est-ce que ce sera possible ? Est-ce que c'est encore possible pour moi ? Oui, répond Jésus au monde et il le répond à chacun. Tu peux porter des épis qui donneront chacun 100 bons grains, ce qui tient du prodige. J'ai jamais vu un épi de blé avec 100 grains. C'est le propre de la transcendance de faire ce qui nous semblait impossible, ce qui était impossible à nos seules forces. Parfois même, c'est du cœur que ce désespoir. C'est du cœur de ce désespoir que peut surgir une résurrection. Alors, quelle que soit la manière dont on est en droit de comprendre ce qu'on appelle la résurrection du Christ, une chose est certaine, c'est que les disciples de Jésus sont passés du plus grand désespoir à un enthousiasme extraordinairement fécond. Alors, cela ne justifie pas les catastrophes qui nous arrivent, même les mauvaises choses ou notre difficulté à vivre. Mais tant qu'à faire que nous ayons ces difficultés, elles peuvent devenir un terreau pour devenir de grandes et belles choses, de magnifiques choses. C'est, à mon avis, un des messages fondamentaux de la résurrection du Christ. Alors cela dit, il n'y a pas que la croix dans l'Évangile et rien ne nous oblige à avoir subi des catastrophes pour commencer à comprendre la vie et à vivre intensément. L'Évangile, ce n'est pas seulement Pâques, c'est aussi Noël, l'annonce d'une grâce inattendue, imméritée, qui peut venir combler une vie qui était déjà belle et recevoir ainsi grâce sur grâce, comme le dit l'Écriture. Et donc, quelle que soit notre situation du moment, qu'elle soit comblée ou qu'elle soit meurtrie, le terrain de cette parabole de Jésus nous invite à prendre en compte les bons grains qui nous sont lancés et puis à chercher qu'en faire. Et puis avec cette parabole, nous pouvons aussi chercher comment aider ceux que nous aurions à cœur d'aider. Comment d'abord sortir de notre bulle comme le semeur sort pour semer. Et puis chercher aussi quelles semences de réconfort nous pourrions lancer pour faire avancer la vie. Quelles sont ces mystérieuses graines de vie, donc ? Graines d'une vie surabondante. Jésus est censé nous aider en donnant une explication de sa parabole, mais comme souvent, il complique encore les choses, et ça aussi est une grâce. Il dit « la semence, c'est la parole de Dieu », ou alors dans une autre version, « c'est la parole du royaume ». Alors cette explication de Jésus peut aujourd'hui prêter à confusion. Ces grains de vie envoyés dans le monde par Dieu en Christ seraient donc la parole ? Comme s'il y avait des phrases magiques qu'il faudrait prononcer pour aider une personne en détresse ou des doctrines à connaître pour que quelque chose en nous se débloque, que nos chaînes tombent et que, miraculeusement, nos ennuis s'envolent, nous portent en chance. Alors c'est mal comprendre ce que Jésus entend ici par parole. C'est une question de terme en fait. Que ce soit dans l'un ou l'autre des mots grecs traduits dans les évangiles par parole, logos ou rhéma, ils traduisent tous les deux un même mot hébreu, dabar, qui signifie à la fois la parole et l'événement en fait, la chose. L'hébreu est en effet une langue qui est très souvent polysémique. Donc le même mot logos peut dire effectivement parole en grec classique, mais dans le contexte de la Bible, le traducteur justement ne traduit pas toujours par parole. Par exemple, quand l'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte, Marie s'étonne, se disant ben, « en fait je couche avec aucun homme, donc il y a peu de chance ». L'ange lui dit alors, littéralement dans le texte grec, « Il ne sera pas impossible de la part de Dieu toute parole ». Alors ce n'est traduit par aucune Bible comme ça, parce que la question ici n'est pas ce que Dieu dit, mais plutôt sur ce qu'il peut faire ou non. La question, ce n'est pas sa parole au sens du logos du grec classique, la parole en français. Et c'est donc justement que nos Bibles rendent ici le mot « parole » par l'acte de Dieu, en mettant par exemple « avec Dieu, tout est possible ». Ou alors « rien n'est impossible à Dieu », ce qui me semble plus discutable, mais enfin. Le grain, ça peut donc être une parole, mais c'est aussi un acte, un événement, une chose qui arrive. Alors c'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent faire un bien fou. Un petit mot, parfois, peut vraiment changer la vie d'une personne. Donc ne soyons pas avares de ces mots de réconfort. Mais quelle parole? Comment? Ce n'est pas facile. Je me souviens d'un collègue allemand que je connaissais à peine, mais qui m'a demandé de l'héberger un temps avec sa femme et son enfant pour fuir les paroles de réconfort dont sa femme et lui étaient assaillis à la naissance de leur enfant qui était arrivé handicapé. Ces paroles de réconfort étaient pour eux une véritable croix, une affliction. Donc oui, parfois, l'action parle souvent mieux que la parole. Pourtant, c'est le mot générique « parole » qui est bien utilisé ici, et non pas un mot plus précis qui existe aussi pour désigner l'action, en général l'acte. Ce mot existe en hébreu comme en grec. Donc « maesh » du verbe « assa » faire en hébreu, traduit en grec dans les Septante par exemple par « pragma ». Et donc si c'est le mot générique « parole » qui est utilisé, c'est pour dire que cette action est comme une parole adressée à quelqu'un. C'est-à-dire une parole, ça s'impose moins qu'un geste. Un geste, ça se subit. Une parole, au moins, même si c'est parfois aussi subi, une parole, ça s'écoute ou non, ça se discute, c'est accepté ou ça peut être contredit. L'acte que Dieu pose pour nous aider est ainsi comme une graine semée, nous dit la parabole du semeur, donc comme une parole lancée. C'est un acte modeste, comme une proposition discutable. Mais encore, que peut-on dire sur cette graine, cet acte que nous sommes invités à faire comme un semeur de bonnes choses, un semeur de vie? Le récit de la rencontre entre l'ange Gabriel et Marie le montre bien, finalement, comment Dieu sème la vie future. La parabole du semeur, elle offre une généralisation de ce qui arrive à Marie, qui est le type même du croyant, en fait, dans les évangiles. Ou alors on peut dire que c'est le récit de Marie qui est une illustration de la parabole du semeur, si on veut. Une actualisation, comme nous sommes appelés à actualiser cette parabole dans notre propre vie. Soit en étant l'ange envoyé par Dieu auprès d'une personne, de la part de Dieu, soit en étant la personne qui reçoit de Dieu une parole ou un acte que Dieu nous propose par un signe, par un geste, par quelqu'un. L'ange dit à Marie, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et donc la première chose que l'on peut dire de cette graine semée par le semeur, c'est qu'elle doit être une grâce faite pour l'autre. C'est probablement le point essentiel, caractéristique des millions de paroles et de gestes possibles pour que le semeur arrive ainsi, vraiment l'autre. Qu'il puisse dépasser toutes les négativités, les piétinements des sans-vergogne, sa détresse devant mille soucis, et l'aridité pierreuse peut-être de son existence. Une grâce a déjà été faite en s'intéressant vraiment à l'autre, en s'intéressant pour lui-même. C'est déjà une grâce quand quelqu'un s'intéresse authentiquement à nous. Par un geste qui fait ce que dit Gabriel, le Seigneur est avec toi. Il est dans ton camp pour se soutenir et non contre toi, ni même devant toi pour te tester, pour te juger. On retrouve cette grâce au tout début de la parabole quand Jésus dit « un semeur sorti pour semer ». Alors, aucun mot n'est là pour faire joli simplement dans ces écrits que sont les évangiles, écrits avec une extrême minutie. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit que le semeur sortit pour semer? Bien sûr qu'il sort de sa maison pour semer, il ne va pas semer son grain dans sa cuisine ou même envoyer une poignée de grain par la fenêtre. Dans le texte biblique, quand un élément est bizarre, c'est qu'il est important. C'est un principe d'interprétation qui était déjà bien connu du temps de Jésus. Donc l'accent est mis sur le fait de sortir pour semer, pas simplement de semer. Le texte insiste même sur l'acte de sortir en le mettant en premier. Il est sorti, le semant, pour semer. Alors sortir de soi, sortir de sa bulle, sortir de la seule répétition du passé, sortir de son soi-même pour l'autre, en fait, pour s'intéresser à l'autre. Et donc le semeur ne projette pas seulement des paroles ou des actes, il se projette lui-même dans le monde. Il se donne lui-même pour l'autre. Et c'est ça la grâce, finalement. C'est comme ça que Dieu manifeste en Christ qu'il est avec nous. Sortir pour donner de soi-même à l'autre. C'est le contraire du piétinement de bottes du sans-vergogne qui écrase l'autre de sa supériorité, alors même peut-être qu'il pense l'aider. C'est la grâce qui sauve, en fait. C'est-à-dire la grâce que nous mettons. C'est ça, cette gratuité, cet intérêt pour l'autre, cette sortie de nous-mêmes qui sauvera peut-être la personne que nous voulons aider. Et cette parabole tout agricole de Jésus nous suggère que c'est quelque chose de très concret, finalement, très au ras des pâquerettes, au ras de notre vie réelle. Une sorte de minuscule quelque chose, un geste, un regard, une parole, une présence ou des années d'attention. C'est cela qui sauvera le désespéré de son désespoir, qui libérera d'une spirale infernale, descendante peut-être, et qui l'ouvrira à une prodigieuse fécondité. Le petit geste, qui va pouvoir produire 100 fois plus que tout ce que l'on aurait été en droit d'espérer raisonnablement. C'est comme ça que notre semeur compte sauver le monde, c'est toujours comme cela. C'est même sa nature, nous dit Jésus. En effet, il aurait pu commencer sa parabole bien plus simplement, c'est un peu lourd cette expression. Le semeur sorti pour semer de la semence. Bon, on a compris que c'était question de semer quelque chose. Il aurait pu dire plus simplement « quelqu'un sort pour semer ». Mais on aurait pu s'imaginer alors que ce geste de semer était comme ponctuel, qu'à un autre moment, il va dépierrer son champ, brûler les ronces, mettre un épouvantail contre les oiseaux, que sais-je. Alors que pour le semeur, l'action de semer, c'est sa vocation, c'est quasiment sa nature, il fait que ça. C'est son job. Et effectivement, l'action que suggère Jésus avec cette histoire est cohérente avec cette stratégie de la grâce. Le semeur qu'est Jésus sait qu'il existe en ce monde cruel, le piétinement des sans-vergogne, le picorage du mal, l'étouffement par les soucis, la sécheresse de la superficialité. Et donc quand Jésus parle de ça dans sa parabole, il dénonce effectivement nos insuffisances, nos faiblesses, notre méchanceté, nos manques de force, notre violence et tout cela, bien sûr. Mais lui, le semeur, n'a pas dans sa nature d'autres actions que celle de semer la bonne graine. La semer dans le meilleur que nous sommes, dans un certain côté bien sûr, mais aussi dans nos moins bons côtés. Et donc il y a là une stratégie, celle de la grâce, celle d'une toute action positive. Action toute positive. Et donc en peu de temps, dans les derniers mois, J'ai entendu deux personnes parmi vous me disant un peu cela, mais comme une résolution qu'elles avaient prise déjà après avoir un certain vécu. La première, une grand-mère qui n'est malheureusement pas là parce qu'elle s'est cassée le col du fémur, m'a dit « Depuis quelques années déjà, j'ai décidé de cesser de dire des méchancetés personnelles. » Le second, un paroissien plein de responsabilités, m'a dit qu'il a décidé de se concentrer sur les actions positives plutôt que de lutter contre ce qui ne va pas. Donc le semeur n'ignore pas les problèmes. Il voit, il dénonce ce qui nous fait souffrir physiquement, moralement, psychiquement, mais il continue à avoir une action toute positive, à semer de bonnes graines. Il ne se laisse pas contaminer par ce mal en se mettant lui-même à lutter contre ce mal, par le mal finalement. Et donc c'est comme ça que Dieu agit pour nous apporter la grâce. Il n'y a pas l'ombre d'une rancune en lui, juste du positif. Et c'est comme ça que nous pouvons espérer aider quelqu'un. C'est comme ça que nous pouvons recevoir l'aide de Dieu ou recevoir l'aide de quelqu'un part comme quelque chose qui nous mettrait en dette finalement, ajoutant encore à notre dette d'avoir fait de mauvaises choses. Mais non, recevoir avec simplicité les dons qui nous sont faits, comme une grâce, comme un cadeau tout naturel. Et recevoir une abondance de vie comme un miracle, et voir les pierres se fendre, et peut-être laisser sourdre un début d'un filet d'eau. Voir les oiseaux s'abriter dans nos branches au lieu de nous dévorer vivants. Voir les soucis se faner et devenir peut-être une haie autour de notre champ, ou devenir même un humus pour une croissance plus grande encore. Et donc c'est comme cela que nous pouvons, recevant toute chose comme une grâce, semant de la grâce, recevoir dans notre bon fond, dans notre si bon fond, grâce sur grâce, et que ça se multiplie. Ces grâces de Dieu, ce sont celles que l'on accueille dans la prière d'abord, dans la prière régulière, labourant notre champ, s'ouvrant à quelque chose de la transcendance. Mais aussi en reconnaissant les grâces de la vie telles qu'elles se présentent, en les assimilant comme la terre absorbe le grain et le multiplie, on ne sait comment. Mais les grâces viennent aussi de nos semblables qui sont plus souvent qu'on ne le pense des anges, malgré leurs imperfections. Dieu est le semeur, certes, avec l'article défini. Mais nous, nous pouvons apprendre de lui cette stratégie profonde et vraie qu'est celle de la grâce et devenir un semeur. Y goûter nous-mêmes à cette grâce et choisir de la vivre délibérément, sans naïveté, dire ce qui ne va pas, mais agir pour le bien, positivement, aller de l'avant, devenir semeur, rester semeur. Christ est le grain, certes, minuscule grain d'humanité et de divinité jeté dans le monde, donnant sa vie, mais ne gâchant pas sa vie, finalement. Ne choisissant pas la mort, mais quand elle s'impose malheureusement à lui, il fait face pour que la vie l'emporte, et avec quelle prodigieuse fécondité. Mais nous pouvons apprendre de Christ à nous donner un peu pour être comme un grain qui disparaît dans la terre, une semence de grâce tournée vers l'avenir, une semence jetée comme un combat pour plus de justice, pour du réconfort, pour les piétinés de la vie. Alors nous sommes encore le terrain, le champ du monde, prêt à recevoir le bon grain. Il est déjà là et nous l'attendons encore. Mais il est déjà mis en nous par notre Dieu, par notre frère le Christ, et par des témoins modestes et bienveillants. Qu'ils en soient tous et chacun remerciés sincèrement. Alors à notre tour, nous produirons du grain. Ce grain ne sera pas la même parole de Dieu que nous avons reçue. Parole de toute façon imprononçable et particulière que Dieu souffle à notre oreille, à notre cœur, ce ne serait pas la peine, ce ne serait pas possible, ce ne serait pas la peine de la répéter à un autre, puisque c'est une autre parole dont il a besoin. Mais ce qui poussera dans notre vie, ce sera notre fruit, notre propre fruit, qui poussera en notre temps, comme le dit le psaume premier. Ça sera le fruit dont le monde aura besoin. Notre fruit viendra en notre temps, et ce temps, on sait maintenant, bien sûr. Ce sera un tout nouveau fruit par rapport à ce qui a été semé dans notre être, un fruit tout marqué de notre personnalité, mais avec cette même grâce, avec ce même souffle de vérité et de bienveillance, de bienfaisance. Et donc c'est modestement que nous la jetterons, notre semence, dans le champ de ceux que nous avons à cœur de voir s'épanouir un peu plus, enfin. Et ce sera alors vraiment une parole du royaume, en fait, comme le dit Jésus, même si elle vient de nous. Une vraie parole du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est ainsi, ce n'est pas un lieu spécial, ce n'est pas un temps futur, comme ce qu'annoncent des charlatans qui s'amusent à faire espérer à des pauvres gens des lendemains qui chantent, que ce soit dans ce monde ou le temps futur, mais tout simplement notre temps, quand la grâce y prend racine. Voici, nous dit Jésus, que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il n'est pas dedans, au-dedans de nous comme un fluide qui serait versé dans un vase d'argile de notre corps, comme l'Esprit Saint serait versé dans le contenant que nous serions. Non. Ce royaume de Dieu, il est en nous comme une manière d'être. Il est notre vie quand quelque chose de cette semence de grâce de Dieu est reçu. Oui. L'Éternel, éternel, qu'il me soit fait selon ta parole, comme le dit Marie. Alors tout est possible car Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de nous, et puis dans nos actions, dans nos paroles. Et nos pas, jadis brutaux, apprendront à ne pas piétiner les jeunes pousses. Nos ronces, jadis piquantes, formeront des haies pour abriter du vent, des sangliers furieux, et puis les oiseaux y formeront leur nid. La grâce prenant racine en nous portera du fruit, l'offrant au passant qui a faim, qui a tellement faim et soif. Et nous porterons du fruit, ne serait-ce qu'un fruit de grâce de la taille d'une fraise des bois. Amen. Alors, grand merci à Aurélien Péter pour ce magnifique accompagnement à l'orgue. Surtout que comme il est en train de préparer l'agrégation, c'est vraiment un reconnaissant qu'il ait pris le temps de venir pour nous accompagner ce matin et pour laisser Jean-Dominique Pasquet se consacrer donc au concert, au beau concert qui aura lieu cet après-midi à 14h30 ici, avec aussi Isabelle Hureau à la flûte, Sylvie Jugnot soprano, Constance Luzzati à la harpe et Marion Hunal au violoncelle, Gilles Donneau au piano. Donc un beau concert à 14h30 ici qui vient conclure la vente paroissiale, donc une grandes journées qui sont au profit de l'association d'entraide. Alors j'ai une reconnaissance profonde en fait pour tous ceux qui ont fait de ces journées une belle réussite. Franchement, c'est un boulot immense. Hier soir encore, l'oratoire a été transformé en brocante géante et par miracle, mais des fois les miracles demandent quelques bras, et bien aujourd'hui nous avons ce lieu de culte tout bien rangé et tout propre. Alors il reste encore quelques petites choses qui sont dans la grande sacristie, donc c'est des ouvrages je pense avec Dominique Baumgartner. Vous pouvez aller visiter, sortir par la sacristie, voir ce qui reste. Et puis donc venir au concert à 14h30. Entre les deux, eh bien, il y a un repas en face qu'une autre équipe est aussi en train de préparer. Vraiment, merci à tous ces bénévoles si engagés. Un bon repas. Donc même si vous n'êtes pas inscrit au repas, vous pouvez venir quand même. On coupera les patates en quatre et les saucisses lyonnaises en deux, quand même. Alors il y a une nouvelle feuille rose qui va apparaître, qui va être mise à la poste cette semaine. Si vous n'êtes pas inscrit sur les fichiers, vous ne la recevrez pas, vous pouvez la trouver dans une semaine ou deux donc sur la table. En fait, on peut s'inscrire à l'oratoire ou non. On peut s'inscrire simplement pour recevoir la feuille rose, recevoir les informations, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on peut s'inscrire comme membre électeur, ça permet de participer aux décisions lors de l'Assemblée Générale. Pour ça, c'est un autre formulaire qui est aussi à votre disposition sur la table. Mais on peut aussi venir à l'oratoire, même régulièrement, sans être inscrit du tout. Participer, c'est heureusement être déjà pleinement membre de notre Église, car la foi, c'est une question de cœur, de pensée, pas une question de fichier. Mais enfin, c'est vrai que c'est bien si on peut se connaître les uns les autres. Ça permet aussi de mieux avancer. Alors, il y a des activités cette semaine. Lundi, il y a l'hébreu biblique apprentissage avec Christophe, donc à 19h30. Il y a l'initiation à la théologie chrétienne, donc ces cycles de 6 rencontres que nous faisons 2 fois par an. Là, c'est le 5e tome sur les 6. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux, mais vous pouvez venir quand même si vous voulez commencer, mais sinon il vaut mieux peut-être attendre celui qui aura lieu au printemps, qui sera le samedi matin. Mardi, il y a le grec biblique débutant avec Aurore à 19h30. Il y a une conférence débat à 20h sur le credo revisité avec mon collègue le pasteur Bruno Gaudelet, qui est pasteur à Neuilly, qui est docteur en théologie et qui a écrit un bouquin sur le credo. Mercredi, il y a un autre groupe biblique, de grec biblique pour les groupes avancés à 15h30. Jeudi, ici même à 20h30, il y a le concert du chœur de l'oratoire qui est en entrée libre lui aussi. Et donc, ils ont choisi de nous donner des Noëls oubliés avec des œuvres de Fauré, de Mendelssohn, de Massenet, de Migaud, de Sellier et de Reichel. Donc ça, c'est jeudi à 20h30 ici. Samedi, vous pouvez venir chanter avec le chœur à 16h pour les choristes expérimentés, 17h pour les débutants. Ça permet de préparer les chants du culte du lendemain. Et donc ça, c'est donc samedi à 16h ou 17h à la salle Mono, 4 rue de l'Oratoire. À 18h samedi prochain, il y a la prière silencieuse. Dimanche prochain, il y a le culte avec Frédéric Chavel, qui est donc professeur de dogmatique de théologie, c'est-à-dire à la faculté de théologie protestante de Paris. Et puis il y a l'éducation biblique toute la journée, et il y a la fête de Noël des enfants ici même à 16h avec le sapin de Noël, avec une scénette qui est préparée par les enfants à travers laquelle ils viendront nous dire le témoignage de l'Évangile, une prédication préparée par les catéchumènes de 4e année, et même un cadeau de Noël. Et donc ça, c'est dimanche prochain à 16h. Maintenant, c'est le temps de l'offrande. Alors c'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu, mais l'Église a besoin de nos dons pour payer les factures. Et donc c'est vrai qu'il est temps, peut-être en ce mois de décembre, eh bien, de mettre en particulier à part un don pour permettre à l'Église eh bien, d'accompagner toutes les familles qui le désirent sans condition de ressources. Nous prions. Ô Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie, à toi de nous nourrir, de nous conduire, de nous protéger, de nous conserver. mais aussi de nous sanctifier par ton appel, de nous fortifier et de nous bénir pour avancer comme semeurs en ce monde. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant. Soutiens-nous de ton amour et donne-nous ainsi un cœur de chair pour notre frère, notre sœur. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et être ainsi prophètes en ce monde, porteurs d'une vraie parole. D'être affermis de ta force et d'en user pour le bien de celles et ceux que tu nous confies. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'ample Église qui rassemble tous ceux qui te cherchent en Christ, nos cœurs élèvent vers toi cette prière que ton Fils nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu selon les paroles données par Moïse à son frère Aaron. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, nous sommes envoyés pour porter cette bénédiction.